dans ce genre de situation-là. Déjà, on a un individu qui a un accident automobile, si tout ça s'est passé tel qu'on le présume, et qui, par la suite, ne reste pas sur les lieux, quitte les lieux avec ses petites filles. On retrouve les petites filles décédées. Le père, M. Carpentier, n'est pas à leur côté. Il a quitté les lieux. Tout ça fait que déjà, l'individu est dans un état d'esprit assez particulier. Donc, il est en détresse. Une personne en détresse peut avoir des réactions de repli, de se barricader, de confronter. L'individu, actuellement, là, est dans un état d'esprit tel que les policiers ne veulent pas mettre en péril la population,
non.
Même les bénévoles en recherche et sauvetage. Je suis convaincu qu'on va prendre un certain pas de recul avec l'utilisation de cette équipe.
Alors, c'est un invité que nous aurons dans les prochaines minutes, Marcel Savard, qui est l'ancien directeur adjoint de la Sûreté du Québec. Et d'ailleurs, parlant de la Sûreté du Québec, d'abord, je vous resalue et je salue également les auditeurs qui n'étaient pas avec nous au début de notre émission. Oui, c'est une émission à caractère spécial parce qu'il y a encore une situation très active dans cette tragédie, vraiment, cette tristesse infinie qui a gagné tout le monde au Québec avec l'annonce de la mort des deux fillettes, c'est-à-dire la confirmation en fin d'après-midi hier que Nora, 11 ans, et Romy, 6 ans, sa petite sœur, était décédée. Il y aura bien sûr autopsie, on verra. On verra peut-être un peu plus clair dans les circonstances de leur mort. Mais ce que j'allais dire, c'est que cette situation-là, elle est toujours en développement, étant donné que les recherches intenses, les recherches policières se poursuivent. Et Anne Mathieu, porte-parole de la Sûreté du Québec, vient de réitérer à l'instant même, elle comprend que beaucoup de gens de la région, de Saint-Agapy à Saint-Apollinaire, des gens qui habitent également le long du rang Saint-Elzéar, un endroit très, très, très précis, là, où on a retrouvé les corps, à l'est de la 273, de la route 273. C'est là qu'on concentre les recherches pour tenter de retrouver le père Martin Carpentier. Elle comprend que les gens veulent aider, mais qu'en voulant bien faire, plusieurs personnes qui s'improvisent dans les recherches, d'abord mettent leur sécurité à eux en jeu. Parce qu'on ne sait pas vraiment
oui,
si...
Ils peuvent brouiller les pistes aussi.
Ils peuvent brouiller les
pistes. Ce qu'elle a dit, par contre, Paul, c'est que les propriétaires de terrain, par exemple, autour, elle dit, si vous voulez observer, on veut bien avoir des appels là, de gens qui auraient observé des changements, des objets déplacés, des pistes, par exemple, qui seraient anormales. Ça, évidemment, ils sont très ouverts à ça. Ils ont besoin d'informations.
Et j'ai fait un lapsus, j'ai dit Saint-Elzéar, rang Saint-Elzéar, c'est parce que j'ai habité longtemps près de rang Saint-Elzéar, Thérèse.
Oui, c'est vrai.
Non, c'est le rang Saint-Lazare. Voilà. C'est là qu'on concentre les recherches, un peu à l'est de la 273. Allons sur le terrain retrouver Benjamin Aubert, notre collègue. Benjamin, bonjour.
Bonjour, Paul.
Vous êtes en déplacement parce qu'on vous a parlé au cours des dernières heures directement du poste de commandement au centre communautaire de Saint-Apollinaire. Vous vous êtes déplacé depuis?
Oui, j'ai essayé de me rendre un peu plus près du territoire où on fait des recherches. Et là, présentement, je me trouve carrément dans le bois. Je me trouve sur un terrain, sur une route forestière qui est vraiment pas très large. C'est la largeur d'une voiture. C'est impossible de rencontrer des gens. Faut se ranger là, quasiment dans le bois là, pour être capable de rencontrer des gens. Et comme la Sûreté du Québec le disait, on demande aux citoyens d'éviter le secteur parce qu'on veut pas que les citoyens viennent qu'à nuire aux recherches par les bruits qu'ils pourraient causer en allant marcher dans le bois, par exemple, pour retrouver eux-mêmes Martin Carpentier, 44 ans. On dit également que ça nuirait aux chiens pisteurs. Si, par exemple, il y a une odeur humaine et qu'un chien sent cette odeur-là, si c'est pas l'odeur de Martin Carpentier, ben là, on vient qu'à enquêter sur une fausse piste. Donc, c'est notamment une des raisons pour lesquelles on veut éviter d'avoir des citoyens dans le secteur. On parle également du fait que si les citoyens s'enfargent dans une branche, parce que le bois est très dense ici, à Paul, il n'y a vraiment pas beaucoup de place à circuler. Il faut tasser des branches, prendre la place nous-mêmes pour marcher dans le bois. Là, c'est vraiment difficile de circuler à pied. Donc, si un citoyen s'enfarge dans une branche, tombe, il se blesse, ou ne serait-ce que crie parce qu'il fait le saut, ben là, ce cri-là peut devenir une fausse piste pour les enquêteurs également. Donc, c'est pour ça qu'on demande aux citoyens d'éviter de se rapprocher de la zone des recherches. Martin Carpentier, qui n'a toujours pas été localisé, on demande aux citoyens d'être vigilants, de signaler le 911 s'ils l'aperçoivent, de ne pas l'approcher s'ils l'aperçoivent, parce que on ne sait pas si cet individu-là pourrait être dangereux pour la population en général. Est-ce qu'il est armé? On ne le sait pas. Il y a tout plein de questions auxquelles on n'a pas de réponse pour l'instant.
Benjamin Aubert, quelle est la météo en ce moment dans le secteur?
Actuellement, le ciel est couvert. On a eu un petit peu de pluie tout à l'heure, mais c'est pas majeur. Quelques gouttelettes une fois de temps en temps, mais pour l'instant, le ciel est couvert et il n'y a pas de pluie.
Et est-ce que vous savez s'il y avait eu interruption des recherches ou si ça s'est déroulé là sans arrêt depuis hier soir?
La Sûreté du Québec nous assure qu'elle travaille 24 heures sur 24. Par contre, au cours de la nuit, on a changé un petit peu la méthode de travail. Il y avait des policiers dans les chemins forestiers, mais peut-être qu'on a moins fouillé dans le bois en faisant du ratissage. Parce que vous comprenez, comme je vous le disais, le bois est très dense. Ça peut être dangereux d'envoyer des policiers à pied dans le bois à la noirceur. Donc, on a gardé des policiers le long des chemins forestiers pour s'assurer de faire une patrouille, s'assurer que si Martin Carpentier était en déplacement, ben on pourrait peut-être l'intercepter par hasard, mais les policiers nous assurent qu'ils ont travaillé 24 heures sur 24, et ce, depuis mercredi soir, là, depuis l'accident mercredi soir à 21h30.
Merci beaucoup, Benjamin Aubert. Évidemment, vous aurez priorité là si, de votre côté, vous avez des développements à nous apporter d'ici les 50 prochaines minutes.
Absolument. Bonne journée.
Au revoir, parce que nous quittons l'antenne à 11h. Marcel Savard a été directeur adjoint de la Sûreté du Québec. On le retrouve. Bonjour, M. Savard.
Bonjour, M. Aude.
Voilà ici une observation. On vient de réitérer, via Anne Mathieu, la porte-parole de la Sûreté du Québec, cette demande à la population en disant « Oui, on comprend que beaucoup de gens veulent nous aider, mais parfois, cette aide peut devenir une nuisance. » Et notamment, dites-moi, peut-être que vous êtes au courant, on dit « On a des appareils de détection thermique. » Donc, on est capable de mesurer à un endroit l'émission de chaleur par un corps humain. Donc, s'il y a beaucoup de personnes, ça peut encore brouiller les pistes.
Oui, tout à fait. On a maintenant disponible, soit après les hélicoptères, des appareils de détection thermique ou des appareils qui sont portatifs avec lesquels les équipes spécialisées peuvent travailler. Maintenant, le défi d'utilisation de ces appareils, c'est vraiment d'avoir un contexte de température favorable. Vous savez, je l'expliquais ultérieurement, c'est que on a une masse qui récupère la chaleur, des immenses roches qui prend la chaleur ambiante. On se rappelle les derniers jours, il faisait extrêmement chaud. Hein? Et on a des roches, des arbres, des troncs d'arbres qui récupèrent une grande masse de chaleur. Et quand on utilise les appareils de détection thermique, lui, il ne fait pas de distinction entre un corps humain ou une masse de chaleur. Donc, ça devient extrêmement difficile de dire « ça, c'est un être humain, ça, c'est un tronc d'arbre ou une grosse roche ». Alors que si la température baisse, tout l'ambiant perd cette masse de chaleur et là, le corps humain, lui, demeure toujours à la même chaleur, 98, et ça devient beaucoup plus facile pour les appareils de cibler et là, pour les policiers même, de dire, OK, ça vaut la peine d'aller vérifier cette masse de chaleur-là, que ce soit du haut des airs ou au sol.
C'est très bien expliqué, là, vous nous dites que ça peut être un outil, mais attention, il peut y avoir des variations de température qui pensent qu'on est sur une piste très précise, puis ça s'avère évidemment une fausse piste.
Tout à fait. Et c'est la même chose pour les outils que sont les chiens de la Sûreté du Québec, vous savez. Les chiens de la Sûreté du Québec, un chien, quand il cherche, lui, il fait à ce stade-ci, on fait de la recherche libre parce qu'il n'y a pas de piste précise de point de départ où le chien va être sur une piste et il va croiser une piste et là, il va décider d'aller sur cette piste-là avec le maître de chien. Là, le chien sont en recherche libre. La recherche libre, c'est en fonction des vents à l'intérieur. Donc, souvent, les chiens vont se mettre face au vent avec leur maître et ils vont se promener de long en large afin de cibler un quelconque petit panache d'odeur humaine. Et tranquillement, le chien va se diriger vers ça. Si, évidemment, il y a beaucoup de gens à l'intérieur du bois, ben imaginez une multitude de panaches, une multitude éventuelle de pistes éventuelles, et chaque fois, le chien, le maître de chien doit amener son chien à suivre la piste jusqu'au bout. Là, c'est négatif. On recommence, on cherche une autre piste, et ainsi de suite. C'est pour ça que, comme on n'est plus en mode recherche et sauvetage, on est vraiment en mode d'appréhension d'une personne, un témoin important. Là, on demande aux gens, n'allez pas dans le bois. Vous allez nuire aux recherches, aux spécialistes qui sont déjà là. Et ça, c'est tout le principe de recherche actuellement.
Êtes-vous d'accord, Marcel Savard, que les policiers et policières doivent tenir compte d'un potentiel niveau de dangerosité du suspect?
Ah, tout à fait, M. Hood. À ce stade-ci, compte tenu de... J'écoutais votre intervenant précédent. À ce stade-ci, compte tenu de l'état d'esprit dans lequel M. Carpentier est, la fuite, parce qu'il a quand même conscience qu'il est en fuite, s'il voulait être récupéré par les policiers ou par les autorités, il se présenterait tout simplement sur un chemin, il irait voir un char de police, il s'arrêterait comme ça. Donc, on peut présumer qu'il ne veut pas être appréhendé. Donc, cet individu pourrait justement résister à une arrestation et le niveau de résistance, pardonnez-moi, le niveau de résistance de l'individu va être en fonction justement de est-ce qu'il est justement habilité à offrir une résistance physique immense, est-ce qu'il a des armes, est-ce qu'il peut utiliser quelconque bâton, tronc d'arbre, branche d'un certain diamètre pour s'en servir comme moyen pour se battre, pour combattre. Fait que les policiers sont là et est-ce que, évidemment, ultimement, on parle d'armes à feu, mais oui, les policiers sont conscients de ça, mais les gens travaillent en fonction de ça, mais je vous dirais, la recherche d'un suspect en fuite, pour en avoir fait plusieurs, c'est le dossier le plus à risque pour les policiers. Parce que l'individu peut être terré quelque part, être en attente. Les policiers se déplacent tranquillement vers lui. Il ne le voit pas et lui les voit et les entend venir. Et c'est dans les dossiers les plus à risque actuellement pour les policiers quand on est à la poursuite d'un suspect qui ne veut pas être appréhendé. Ça, c'est définitif.
Et ce que vous nous dites a malheureusement été illustré il y a un mois avec l'affaire qui s'est déroulée en Nouvelle-Écosse, où là, il y a une policière qui est décédée de la Gendarmerie royale du Canada. Monsieur Savard, est-ce que la priorité aussi, c'est que le suspect recherché, Martin Carpentier, 44 ans, n'ait pas accès à un véhicule pour X raisons. Pour fuir la région, s'approvisionner, parce que, écoutez, ça fait 5 jours qu'il est disparu. Il a des besoins, là, comme tout le monde, de nourriture, d'eau.
L'individu actuellement, vous savez, on parle de la pyramide de Maslow, hein. L'individu, ses besoins primaires, là, ils doivent être absolument comblés avant de passer à d'autres choses. Donc, les besoins primaires, vous voulez les déterminer. Pour faire ça, pour obtenir ça, il peut aller, à la limite, forcer son entrée dans une maison d'habitation. Et c'est un peu pour ça que les autorités policières demandent aux gens de rester à la maison, barrer les portes. Il faut prendre ça à la légère. Je vous le dis, quand une personne est dans cet état d'esprit-là, cet état carrément de contexte-là, et ses besoins primaires ne sont pas comblés, l'individu peut faire beaucoup de choses qui vont mettre à risque les citoyens. Donc, ils disent, restez à l'intérieur. Ou si vous avez à sortir, prenez votre véhicule. Assurez-vous que c'est sécuritaire. Vous savez, on a souvent vu des individus, au moment même où les gens embarque dans le véhicule, c'est là qu'il sort de sa cachette et il prend possession avec en utilisant un peu de violence et il prend possession du véhicule. Donc, on dit aux gens, soyez prudents, soyez conscients de ce qui se passe autour de vous dans votre secteur de Saint-Apollinaire. Regardez autour avant de sortir. Ce n'est pas de créer la panique, c'est juste d'éviter qu'une situation pire que celle qu'on a se mette à à dégénérer. Une autre situation, exemple, une séquestration, une prise d'otage, etc.
Ou comme on l'a vu, malheureusement, ce qui a coûté la vie à M. Yvon Lacaze, 71 ans, il y a 3 ans.
Tout à fait, exactement ça. Ouais. Évidemment, M. Lacaze s'est fait prendre probablement par surprise. Il a été même utilisé, dans le fond, pour obtenir son véhicule. La violence s'est faite, s'est présentée. On a un individu qui est dans un contexte et un état d'esprit pas ordinaire. Et évidemment, pour répondre aux besoins primaires, soit la fuite ou soit carrément les besoins en eau, en nourriture, en besoins essentiels, ils vont être prêts à faire n'importe quoi.
Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Marcel Savard, de votre collaboration ce matin.
Ça fait plaisir.
Marcel Savard est l'ancien directeur adjoint de la Sûreté du Québec. Au retour de la pause, la douleur des familles de personnes assassinées ou disparues. Vous savez qu'il y a une association et nous allons parler à sa directrice générale Nancy Roy.